Donc, nous enchaînons sur la deuxième communication prévue aujourd'hui, celle de Biagio Magoda, qui a soutenu en 2011 une thèse intitulée La genèse du chapitre 6 de Bouvard et Pécuchet, les apports des notes de lecture du dossier politique. Il est spécialiste de Flaubert et de critique génétique. Il a contribué à l'édition en ligne des dossiers documentaires de Bouvard et Pécuchet, dirigés par Stéphanie Dorcroulet, et aussi à l'édition des manuscrits de Bouvard et Pécuchet, dirigés par Yvan Leclerc. Il a collaboré au dictionnaire Flaubert d'Éric Le Calvez, pour lequel il a rédigé pas moins de 163 notices. Et il a participé au volume Flaubert Voyageur, dirigé également par Éric Le Calvez, paru au Classique Garnier en 2019. Alors, il va nous parler aujourd'hui du modèle familial dans Bouvard et Pécuchet. Et sa communication s'intitule « Quel modèle de famille au cœur de l'encyclopédie critique en farce? Genèse des portraits de Bouvard et Pécuchet, père de famille et éducateur.
Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, on va parler de Bouvard et Pécuchet, parents et éducateurs, et du modèle familial qui émerge après la lecture des plans, des scénarios et des brouillons du roman. Comme Stéphanie Dorcroulet l'a bien souligné dans son article intitulé Pour en finir avec la famille, l'univers romanesque de Flaubert à partir du cas Bouvard et Pécuchet, la représentation familiale dans le roman apparaît, je vais citer l'article, comme un lieu de discorde ou de disharmonie, où les relations, au lieu de se tisser solidement, sont d'emblée rompues ou se déchirent rapidement. Ok, attendez, je vais. C'est bon, vous arrivez à lire?
Parfait.
Ok. En effet, la situation familiale des différents personnages du roman est très précaire, voire inexistante. À propos du père de Bouvard, nous lisons que le bonhomme avait eu ce fils dans sa jeunesse, mais il avait tenu à l'écart soigneusement, le faisant passer pour un neveu. Pécuchet était le fils d'un petit marchand et n'avait pas connu sa mère, morte très jeune. Les domestiques de Bouvard et Pécuchet n'échappent pas non plus à cette situation malheureuse. Marcel, orphelin, a grandi comme un vagabond au hasard dans les champs. Mélie n'a pas de famille, nous lisons qu'elle gagnait une pistole par mois. Et encore, Victor et Victorine sont des orphelins abandonnés à leur destin. Leur père est un forçat, leur père est mort. Et on pourrait continuer. Stéphanie Dorcroulet donne d'autres exemples. Bouvard avait essayé de fonder une famille, mais sa femme l'avait abandonné en apportant de l'argent. Pécuchet allait épouser une petite blanchisseuse, mais avant le mariage, sa femme était enceinte d'un autre homme. Donc, il découvre la trahison de sa future femme. On pourrait dire, quel désastre, quel modèle familial disharmonique et malheureux. Cette manière de concevoir la famille chez Flaubert ne doit pas nous étonner. Si nous considérons que l'écrivain exprime sans détour sa haine envers toutes sortes de modèles familiales, la correspondance en témoigne, comme nous pouvons le lire dans ces exemples, mais il y en a beaucoup dans la correspondance. Le 11 décembre 1852, Flaubert écrit: « L'idée de donner le jour à quelqu'un me fait horreur. Je me maudirais si j'étais père. En vis de moi, oh non, non. Que toute ma chair périsse et que je ne transmette à personne l'embêtement et les ignominies de l'existence », écrit-il le 11 décembre 1852. Et encore quelques années plus tard, malédiction sur la famille qui amollit le cœur des braves, qui pousse à toutes les lâchetés, à toutes les concessions, et qui vous détrempe dans un océan de laitage et de larmes, il écrit le 5 octobre 1855. Même si Flaubert semble mitiger son opinion avec le temps, en 1879, il affirme qu'il aurait pu être un excellent papa, mais le sort et la littérature ont décidé autrement. Sa position reste très dure et intransigeante à l'égard de la famille et des liens familiaux. À la fin du chapitre 9 de Bouvard et Pécuchet, les deux bonshommes recueillent et adoptent deux enfants abandonnés, Victor et Victorine, dont ils décident d'être les éducateurs. Le lien qui s'établit entre les deux amis, amants et les enfants prend la forme d'un véritable modèle familial. Bouvard et Pécuchet représentent un couple de parents qui s'occupent de la formation et du bien-être de leurs enfants. Dans le cadre de cette communication, je me pencherai tout d'abord sur le couple Bouvard et Pécuchet en m'appuyant sur les réflexions et les études qui ont fait débat tout au cours du XXe siècle. Ensuite, j'étudierai l'attitude parentale des deux bonshommes envers Victor et Victorine. Pour mon analyse, je me servirai bien sûr de la documentation avant-textuelle disponible sur le site Flaubert de Rouen. Les plans, les scénarios, les brouillons témoignent du projet de Flaubert de faire de Bouvard et Pécuchet deux parents attentionnés mais inexpérimentés. Bouvard et Pécuchet forment-ils un couple ? Albert Thibaudet a été le premier critique qui s'est intéressé à la question et comme il souligne dans son étude sur Bouvard et Pécuchet, les deux bonshommes commencent à exister à la suite de leur rencontre, de leur découverte réciproque. C'est à ce moment-là qu'ils forment un couple et il ajoute, je vais citer l'œuvre, un couple ridicule de vieux débutants qui parodie d'une certaine façon le couple humain, le couple normal, celui de l'homme et de la femme. Il y a là une valeur mâle et une valeur féminine, ou plutôt femelle. Bouvard est l'homme solide, l'homme à femme, le roquentin. Pécuchet représente l'élément féminin non positivement, mais négativement dans la mesure où il n'est pas un homme. Donc, les deux personnages forment un couple, les deux éléments d'un ménage. Et leur rencontre apparaît dès le début comme un coup de foudre. Selon le critique, Flaubert a voulu mettre en évidence l'élément féminin de Pécuchet. Bouvard est libertin, a éprouvé les plaisirs de la vie, invite son ami à perdre la virginité à 50 ans. Même la répartition des tâches domestiques pourrait faire référence à une division sexuée. Bouvard, agriculteur, un travail qui demande de la force, un corps grand et musclé. Pécuchet, jardinier, un métier plus léger qui a affaire aux plantes, aux fleurs. Mais d'autres éléments dans les manuscrits prouvent le contraire, comme Claudine Gothomersch et Yvan Leclerc, entre autres, l'ont mis en évidence. En effet, quand il faut s'occuper de Victor et de Victorine, Bouvard est défini dans les manuscrits, dans les brouillons, plus doux, plus féminin. Et pour cette raison, il s'occupe de la jeune fille. En outre, Victorine donne des bisous au cou à Bouvard parce qu'il a la peau blanche, une caractéristique féminine. Donc, pour reprendre une citation de Claudine Gothomersch, la fémininité déclarée, la virginité, la pudeur de Pécuchet sont des indices contraires que la version définitive ne se chargera pas de concilier. Mais d'autres éléments des brouillons que j'ai consultés pour ce travail confirmeraient le côté masculin de Pécuchet, comme nous allons le voir. De toute manière, les deux amis amants forment un couple. Les scénarios et les brouillons sont porteurs de messages importants qui révèlent l'intention de Flaubert de faire de Bouvard et Pécuchet une famille. Une famille formée dans un premier moment d'un couple sans enfants. Un couple qui se promet de l'aide mutuelle, qui décide de parcourir ensemble la dernière partie de leur existence et de s'amuser, de se lancer toujours main dans la main dans de nouvelles aventures malgré les échecs auxquels ils auront affaire. Dans les premiers scénarios, par exemple le folio 2 que je vous montre et que vous connaissez certainement, on évoque la force des sentiments qui lient les deux personnages. On retrouve des références à un désir profond d'être ensemble. Et le lexique que Flaubert utilise pour établir le lien amoureux qui unit les deux amis est significatif. C'est un vocabulaire emprunté au domaine de l'amour, par exemple, mais les grands sentiments n'ont pas besoin de paroles. Les amants se regardent après raturer. Peu à peu, ils s'emboîtent et entrent l'un dans l'autre. Cette dernière citation pourrait se prêter à une interprétation liées au domaine sexuel, homosexuel. La critique a maintes fois remarqué que dans leur ferme, Bouvard et Pécuchet avaient chacun une chambre. Mais ils avaient décidé de faire sauter la petite porte qui les séparait. Tout en dormant dans deux lits séparés, ils partageront la même chambre et pourront communiquer entre eux. C'est bizarre. En outre, comme vous le savez bien, après les mésaventures amoureuses de Bouvard avec la veuve Bordin, et de Pécuchet avec Mélie, les deux amis se répandent et se promettent. Plus de femmes, n'est-ce pas? Vivons sans elles et s'embrassent avec attendrissement. Quoi qu'il en soit, indépendamment du rôle sexuel attribué aux deux amis, il est indéniable que Bouvard et Pécuchet représentent une famille. On verra après à quel modèle elle pourrait correspondre. Et leur attitude envers Victor et Victorine le confirme. On va parler de la genèse de l'attitude parentale de Bouvard et Pécuchet dans les manuscrits. L'intention de Flaubert de former un couple à travers l'adoption de deux enfants apparaît dès le premier scénario. Dans le carnet 19, nous relevons le passage « Essaye d'adopter un enfant. Éducation. Deux enfants espérant les marier plus tard. » Folio 41. Dans le quatrième scénario du roman, folio 15, Flaubert fait une remarque importante sur le désir d'une famille de la part de Bouvard et Pécuchet. Ils sont pris par le désir d'une famille, d'un amour, mais ne le savent pas mutuellement. C'est un désir timide, qui naît après l'échec de la politique, qui se révèle ne pas être une science. Les deux amis auront des aventures amoureuses, Bouvard avec Madame Bordin et Pécuchet avec Mélie, mais c'est l'expérience pédagogique dans les derniers chapitres du roman qui ranime le désir de fonder un foyer et d'avoir des enfants. L'attitude parentale de Bouvard et Pécuchet est quelque chose de spontané, de naturel, qui se développe lors de la rencontre avec les deux orphelins. C'est une idée qui leur vient en même temps, comme il arrive, ajoute Flaubert dans Le Brouillon, folio 1085, à ceux qui vivent ensemble depuis longtemps. Bouvard et Pécuchet conduisent Victor et Victorine dans les institutions qui devraient les accueillir. Et pendant le trajet, ils commencent à ressentir un sentiment de paternité qu'ils n'avaient pas éprouvé auparavant. Une émotion sincère, une volonté commune de faire du bien et aider les deux orphelins. Les intentions des deux bons hommes sont admirables, j'ajoute, mais les deux amis amants, sont-ils prêts à franchir ce pas? S'occuper de deux enfants n'est pas une mission simple. Et surtout, ils n'ont pas affaire à des objets ou à des expériences scientifiques comme dans le passé. Dès qu'ils regardent devant eux ces enfants destinés à un institut, ils sont affligés, tourmentés par un état de tristesse, de mélancolie qui les accable et qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est pendant ce trajet, première scène de vie familiale, que les deux compagnons découvrent alors cette envie, ce désir de devenir parents. Bouvard et Pécuchet les regardaient marcher devant eux. Victorine chantonnait des paroles indistinctes, son foulard au bras, comme une modiste qui porte un carton. Elle se retournait quelquefois, et Pécuchet, devant ses frisettes blondes et sa gentille tournure, regrettait de n'avoir pas une enfant pareille. Élevée en d'autres conditions, elle serait charmante plus tard. Quel bonheur de la voir grandir, d'entendre tous les jours son ramage d'oiseaux quand il le voudrait de l'embrasser, et un attendrissement, lui montant du cœur aux lèvres, humecta ses paupières, le pressait un peu. Victor, comme un soldat, s'était mis son bagage sur le dos. Il sifflait, jetait des pierres aux cornets dans les sillons, allait sous les arbres pour se couper des badines. Fourreau le rappela et Bouvard, en le retenant par la main, jouissait de sentir dans la sienne ses doigts d'enfant robustes et vigoureux. Le pauvre petit diable ne demandait qu'à se développer librement, comme une fleur en plein air. Ses rêveries, ses aspirations, porteront Bouvard et Pécuchet à prendre une décision définitive. Ils s'occuperont des deux enfants et de leur éducation. Mais les brouillons montrent une première phase d'incertitude des futurs parents. On va voir le folio 1088 verso. En avons-nous le droit, se demandent Bouvard et Pécuchet, ou bien « Est-ce que sérieux ce que vous me proposez ?» s'exclame Fourreau dans un premier moment. Dans le folio 1085, Flaubert ajoute que le maire tâcha de les dissuader. Phrase remplacée par « après une longue hésitation » dans le texte édité. L'incertitude relève du fait qu'il s'agit de deux hommes. Il semble évident. Même si Flaubert n'ajoute pas d'informations supplémentaires sur la question de l'adoption de la part de deux personnes de même sexe. L'écrivain justifie par contre ce choix en mettant en évidence, dans le folio 1088 verso, qu'il s'agit de deux orphelins destinés à une vie de misère. Et si deux hommes « honorables », entre guillemets, « honorables » comme Bouvard et Pécuchet, se chargent de leur avenir, on leur devait plutôt des remerciements. Le tableau de la misère des deux orphelins abandonnés dans une cahute accentue l'attendrissement des deux bons hommes. Et finalement, on lit dans le brouillon, folio 1083, « Par sensibilité, par besoin d'aimer, ils adoptent les deux enfants. » Flaubert insiste sur le côté sentimental de Bouvard et Pécuchet. Ce n'est pas une expérience comme les autres. Ils perçoivent comme une injustice cruelle la manière dont les deux enfants sont traités et repoussés. Qu'avaient-ils donc fait pour être partout reprouvés? Flaubert reporte dans le folio 1086. Ce sentiment de bonté, de sensibilité, même de colère pour cette injustice, les pousse à s'occuper des enfants. L'attitude parentale s'alimente à la vue des orphelins. Et au fur et à mesure qu'ils parlent avec eux, que Bouvard et Pécuchet parlent avec eux, et qu'ils les observent dans leurs gestes quotidiens, les sentiments de bonheur et de protection deviennent de plus en plus forts. Dans le folio 1088 verso, Bouvard et Pécuchet se considèrent comme des parents à tous les effets, et ils commencent à éprouver des émotions intenses. Nous lisons « Bouvard ému de sentir dans sa main celle du petit garçon, et encore, il serait gai d'avoir un fils-enfant, après remplacé par un petit camarade. » De même, les grâces de la petite fille qui babille impressionnent Pécuchet. Après l'adoption, Bouvard et Pécuchet sentent sur eux la responsabilité d'une famille. Le folio 1131 verso en témoigne. Élever deux enfants, leur apprendre la vie, faire un homme, faire une femme, quelle responsabilité! Il s'agit d'un propos partagé par tous les parents qui ont à cœur l'avenir de leurs enfants. Vouloir les préparer aux difficultés de la vie et les aider à devenir des personnes responsables. Mais dès le début, la vie à la maison ressemble à celle d'une famille heureuse, avec des problèmes de jalousie, des enfants entre frères et sœurs. Pécuchet fait coucher Victor dans sa chambre et Victorine, jalouse, veut coucher avec Bouvard. Le folio 1136 verso indique que Victorine est jalouse, capricieuse et veut imiter son frère. On a du mal à lui faire entendre raison. Combien de fois nous avons vu cette scène dans la vie de tous les jours? Un frère jaloux de sa sœur, ou bien le contraire, une jalousie qui caractérise tous les modèles de famille, notamment quand il y a deux enfants qui rivalisent pour attirer l'attention d'un parent. L'attitude parentale de Bouvard et Pécuchet, née du jour au lendemain, s'est enrichie chaque jour. Nous allons analyser maintenant quelques épisodes du chapitre où Bouvard et Pécuchet montrent leurs préoccupations de parents à la suite de la conduite amorale et méchante des deux orphelins. Le projet éducatif de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, une attitude parentale. L'impact du contexte éducatif familial sur le développement des compétences en lecture et écriture chez les enfants est indéniable. Les parents restent des modèles. C'est pourquoi ils doivent être activement impliqués dans l'éducation de leurs enfants et participer aux efforts visant à garantir le développement des compétences fondamentales pour mieux affronter la vie. Et Bouvard et Pécuchet le savent très bien quand ils décident d'aborder la lecture et l'écriture avec Victor et Victorine. Dès le début, le projet de Flaubert est évident. Victor et Victorine n'apprendront jamais à lire et à écrire et montreront une mauvaise volonté. Plusieurs brouillons, par exemple le folio 1100, indiquent clairement les intentions de l'écrivain. Je vais citer un petit passage. « Lire et écrire, difficulté de la chose en soi, effort des enfants. Mais les mioches y mettent de la mauvaise volonté, sont très paresseux, restent au lit, fuient les leçons. Les brouillons reportent dans les détails les efforts de deux parents dans le projet vain d'apprentissage de la lecture et de l'écriture à des enfants qui paraissent distraits, incapables, ainsi que l'attitude positive de la part de Victor et de Victorine. Mais c'est surtout dans le folio 1134 verso que nous pouvons observer une attitude parentale de la part des deux bons hommes. Comment réagir face à l'insuccès de cette tâche importante dans le processus éducatif des enfants? Comme des parents attentionnés et amoureux de leur créature, même trop anxieux, ils essaient de trouver d'autres responsables, d'autres causes de ce comportement peu enclin à l'écoute et à l'apprentissage. Le folio 1134 reporte des propos qui n'apparaîtront pas dans le roman publié. Tant de paresse n'est pas naturelle, ou bien Bouvard et Pécuchet cherchaient la cause de cette paresse, peut-être souffrait-il. Un autre brouillon, le folio 1130 verso, met en évidence les difficultés des deux enfants. Victor ne comprend pas le mécanisme d'assemblage des lettres. Victorine pose tout le temps des questions sur les lettres muettes, sur les diphtongues, et finalement, elle se résigne indignée. On fait même l'hypothèse d'une possible maladie. Maladie peut-être? Il s'agit là de propos typiques de deux parents qui voient dans les difficultés de leurs enfants un handicap, un obstacle provoqué par des causes objectives. Aujourd'hui, on parlerait de dyslexie, de troubles de l'attention, de la concentration, que les parents essaient dans la plupart du temps d'attester pour rendre plus facile le parcours scolaire de leurs enfants, éviter une fatigue excessive qui ne servirait à rien. Et toujours dans la tentative de ne pas engendrer une tension négative chez les enfants, Bouvard et Pécuchet, parents peut-être trop attentionnés, renoncent à leur projet. Enfin, ils décident de patienter car, on indique dans le folio 1130 verso, il faut que les enfants connaissent les choses avant de connaître les mots. Bouvard et Pécuchet souhaitent donc transmettre des valeurs à Victor et Victorine, surtout les valeurs de la famille, à travers des gestes quotidiens, concrets, mais aussi à travers un enseignement plus théorique, comme le démontre l'illustration d'une parabole. L'importance de la famille, la parabole du bien et du mal. La parabole du bien et du mal que Pécuchet expose à Victor veut mettre en relief l'importance de la famille dans la vie d'un enfant. Je vais lire. Pour frapper son imagination, Pécuchet suspendit au mur de sa chambre des images, exposant la vie du bon sujet et celle du mauvais sujet. Le premier, Adolphe, embrassait sa mère, étudiait l'allemand, secourait un aveugle, était reçu à l'école polytechnique. Le mauvais, Eugène, commençait par désobéir à son père, avait une querelle dans un café, battait son épouse, tombait ivre-mort, fracturait une armoire. Et un dernier tableau le représentait au bagne, où un monsieur accompagné d'un jeune homme disait, en le montrant, « Tu vois, mon fils, les dangers de l'inconduite. » Il n'est pas étonnant de constater qu'à la base du bon sujet et du mauvais sujet, nous trouvons l'attitude de respect et de tendresse envers sa famille. Embrasser sa mère fait partie des bons gestes. Le premier qu'on cite dans le passage en question, le plus important sans doute, pour atteindre le comble de la gloire humaine, comme on lit dans les brouillons. Désobéir à son père est une action négative, la plus dangereuse, à partir de laquelle l'enfant commence son chemin inexorable vers l'échec. Flaubert se sert du modèle familial pour illustrer les notions de bien et de mal. Avoir une attitude affectueuse, aimable envers sa famille peut porter l'enfant à respecter et à aider les autres, secourir un aveugle. À étudier des matières difficiles comme l'allemand, Flaubert a hésité dans les brouillons entre la grammaire et l'histoire. Finalement, il a opté pour l'allemand, certainement plus compliqué. Avoir du succès dans la vie, être reçu à l'école polytechnique. En revanche, se comporter mal, ne pas respecter ses parents, provoque des conséquences irréparables dans la vie d'un enfant. Dispute avec les gens, de nombreux vices comme la dépendance de l'alcool, épisodes de violence et incarcération, etc. Le rêve d'une relation plus parentale. Après l'échec du projet éducatif, après l'épisode du chat torturé et tué par Victor, après les moqueries de Victorine à l'égard de Marcel, Bouvard et Pécuchet s'abandonnent à des réflexions. Des réflexions sur la nature cruelle des deux enfants et rêvent d'une relation plus intense, plus parentale. N'importe, l'espoir était douteux. La tendresse n'existait plus. Quel plaisir que d'avoir près de soi un adolescent curieux de vos idées, dont on observe le progrès, qui devient un frère plus tard. Mais Victor manquait d'esprit, de cœur encore plus. Et Pécuchet soupira, le genou plié dans ses mains jointes. La sœur ne vaut pas mieux, dit Bouvard. Il imaginait une fille de 15 ans à peu près, l'âme délicate, l'humeur enjouée, ornant la maison des élégances de sa jeunesse. Et comme s'il eût été son père et qu'elle vint de mourir, le bonhomme en pleura. Petite parenthèse. Ce passage nous rappelle la rêverie de Charles Bovary lorsqu'il imagine le futur de sa fille Berthe. Ah, qu'elle serait jolie plus tard à 15 ans. C'est le même désir de paternité qui se manifeste d'un père naturel, Charles, et d'un père adoptif, Bouvard. Quant à Pécuchet, si dans le texte édité nous lisons qu'il rêve d'une relation plus amicale ou fraternelle avec Victor, la lecture des brouillons, en particulier le folio 233 verso, révèle que Pécuchet, je cite, avait espéré en faire un jeune garçon charmant, puis un jeune homme accompli. Et quel orgueil de pouvoir dire « c'est mon ouvrage ». C'est mon ouvrage. Ou bien, dans le folio 1169, nous lisons « Quel plaisir d'avoir un adolescent qui vous comble d'orgueil par sa célébrité ». Il s'agit de désirs typiquement paternels, de rêves que chaque parent voudrait réaliser pour son enfant. Les deux bonshommes imaginent même la future profession de leur créature, faire de Victorine une institutrice et de Victor un habile contremaître. C'est le folio 1117 verso. Il s'agit certainement de beaux projets. Le lecteur ressent un sentiment de tendresse envers les deux amis amants. Ils se font des illusions sur l'avenir des deux gamins à l'esprit trop sauvage et cruel. Bouvard imagine une jeune fille charmante et verse des larmes à l'idée qu'elle puisse un jour mourir. Comme un père. Après ce dernier moment, après ce moment de rêverie, ils reviennent à la réalité. Et malgré leur déception, ils tentent, encore une fois, de justifier l'attitude de leurs enfants. L'enfant n'a pas de responsabilité et par conséquent, ne peut rien faire qui soit moral ou immoral. On va voir la Victorine dans les bras d'un homme et la chute du rêve de bonheur parental. Oui, ce rêve s'écroule. Malgré le courage, la détermination et l'optimisme de Bouvard et Pécuchet parents, un épisode constitue l'écroulement de leur rêve, la fin du rêve de bonheur parental. La scène où Bouvard découvre la jeune fille dans les bras d'un homme, Romiche, est bouleversante, décevante. Tous leurs projets, tous leurs désirs s'écroulent rapidement et laissent la place au désespoir, à la colère, à la résignation. Derrière les débris du bahut, sur une paillasse, Romiche et Victorine dormaient ensemble. Il lui avait passé le bras sous la taille et son autre main, longue comme celle d'un singe, la tenait par un genou, les paupières entrecloses, le visage encore convulsé dans un spasme de plaisir. Elle souriait, étendu sur le dos. Le bâillement de sa camisole laissait à découvert sa gorge enfantine marbrée de plaques rouges par les caresses du bossu. Ses cheveux blonds traînaient et la clarté de l'aube jetait sur tous les deux une lumière blafarde. Bouvard, au premier moment, avait ressenti comme un heurt en pleine poitrine. Puis une pudeur l'empêcha de faire un pas, un geste. Des réflexions douloureuses l'assaillaient. Si jeune, perdu. Ensuite, il alla réveiller Pécuchet. D'un mot, lui a pris tout. Ah, le misérable, nous n'y pouvons rien, calme-toi. Pour Bouvard, c'est comme un heurt en pleine poitrine qu'il avait repoussé le dos contre le mur. Mais ce qui émerge, curieusement, dans les brouillons, c'est encore une fois l'attitude parentale des deux compagnons poussé à l'extrême, je dirais. Le couple apparaît comme une famille, je dirais, d'autrefois, avec des projets de vengeance, où le père de famille doit réparer la honte et rétablir l'honneur. Il n'y a pas de trace de vengeance dans le texte édité. Et c'est Pécuchet qui voudrait être le protagoniste de ce geste, ce qui confirme que c'est lui l'homme de la famille. C'est lui qui prend les décisions les plus porteuses de conséquences. Ah, le misérable, on lit dans les brouillons. On devrait le tuer. Pécuchet veut tuer le bossu. L'honneur. On veut appliquer le code de l'honneur après la honte du geste sexuel avec une jeune fille de 14 ans. Dans les brouillons, Flaubert utilise aussi le mot « putain ». C'est une humiliation pour Bouvard et Pécuchet, une honte à réparer. Bouvard apparaît très bouleversé. C'est sa fille qui a été atteinte d'un déshonneur imprévu et il devrait trouver une résolution à cette situation gênante qui semble insurmontable. Bouvard n'arrive pas à trancher. Il reste, comme on lit dans les brouillons, perdu dans une mer de réflexion. Face à cet épisode, les deux compagnons comprennent qu'il n'y a rien à faire et reconnaissent leur insuccès. Pécuchet s'interroge sur les causes du comportement méchant, insensible et amoral de leurs enfants. Peut-être ont-ils manqué d'une famille, des soins d'une mère. J'en étais une, objecta Pécuchet. Hélas, reprit Pécuchet, mais il y a des natures dénuées de sens moral et l'éducation n'y peut rien. On lit dans le roman. Face aux questions et aux doutes, aux hésitations de Pécuchet sur leur statut de famille, Bouvard réagit avec fermeté et détermination. J'en étais une. J'étais une mère. Il se considère donc comme une mère. Mais ce qui m'a étonné, en consultant les brouillons, c'est le repérage d'une réplique de Pécuchet immédiatement raturée par Flaubert. Moi également. Voyez ? Donc, j'en étais une, j'étais une mère, moi également. S'agit-il donc de deux mères ? Enfin, s'identifient-ils tous les deux dans une figure maternelle ? Pourquoi Flaubert n'a-t-il pas mis dans la bouche de Pécuchet une réponse telle que « et moi son père ?» Il y a une forte volonté de la part de Flaubert de mettre en relief un cadre familial atypique à l'époque, formé de deux personnes de même sexe, et le folio 249, le seul qui reporte cette réplique, hein, en témoigne. La vie familiale, enfin, la tentative d'en créer une, tout comme les autres expériences menées par les deux bons hommes, se révèle un échec, un désastre, qui clôt les aventures, mes aventures de Bouvard et Pécuchet. Par rapport aux autres domaines explorés, plonger dans l'univers des rapports familiaux et se mettre dans la peau d'un parent prêt à tout pour ses enfants a été une expérience, à mon avis, différente, enrichissante, émouvante, quoique décevante. Les brouillons ont révélé une attitude sincère et profonde de Bouvard et Pécuchet parents, des sentiments plus intenses par rapport à ce qui émerge dans la version définitive du roman. Il faut admettre que les efforts de Bouvard et Pécuchet ont été immenses et les émotions, les préoccupations qu'ils ont manifestées suscitent chez les lecteurs une certaine sympathie et même du respect, à mon avis. Rien à voir avec les scènes comiques, ridicules, voire énervantes des expériences précédentes où le manque de méthode et leur maladresse avaient provoqué des désastres irréparables. Dans l'éducation des enfants, aucune méthode n'est efficace et valable, car il s'agit d'une tâche complexe qui demande de l'amour, de la bonne volonté, du courage, de la patience, des qualités qui ne manquaient pas à Bouvard et Pécuchet, il faut le reconnaître. Mais parfois, malgré les bonnes intentions de certains parents, les résultats ne sont pas ceux dont ils ont rêvé. On n'y peut rien si on a affaire à une nature rebelle. Le père Goriot, défini par Balzac lui-même, le Christ de la paternité, en est un exemple éloquent. Il s'est totalement ruiné pour permettre à ses deux filles de faire de beaux mariages, et malgré son amour profond et sans limite, il meurt seul, abandonné à son destin. L'attitude parentale de Bouvard et Pécuchet, que nous avons passée en revue et analysée à travers les brouillons, en montrait un cadre familial atypique à l'époque de Flaubert. Au XIXe siècle, le modèle traditionnel ou nucléaire était le seul admis et accepté par la société. Dans la dernière partie du roman, Flaubert met en scène un modèle qui n'est pas celui de la famille traditionnelle, composée d'un couple de personnes de sexes différents. Bouvard et Pécuchet ont une relation de couple qui les lie de façon affective et exclusive, même si leur vie émotive n'est jamais questionnée d'un point de vue sexuel. C'est vrai. De nos jours, je serais tenté de dire ça, on pourrait parler de famille homoparentale, formée par un couple de même sexe, ayant un ou deux enfants et vivant dans un même foyer. Au sein de ce couple, chacun acquiert un rôle précis, qu'il soit masculin ou féminin, rôle que l'on peut s'échanger suivant les situations. Et il n'est pas obligatoire, il n'est pas nécessaire d'avouer ou d'afficher sa sexualité, comme dans le cas de Bouvard et Pécuchet. On peut imaginer, mais rien n'est dit. Ils peuvent s'aimer sans s'exposer à la réprobation sociale, ni porter atteinte aux normes sociales de l'époque. Les deux bons hommes sont le symbole d'une famille moderne, à mon avis. Deux personnes qui s'aiment, qui décident de partager des moments de leur vie ensemble, de réaliser leur rêve parental en adoptant deux enfants. Et comme il arrive dans la société où nous vivons, parfois ce rêve peut aboutir à de grandes satisfactions. Parfois, il peut se révéler un échec. Même dans ce domaine, Flaubert fait montre d'une modernité déconcertante. Merci beaucoup.